Et bienvenue à tout le monde. Je ne sais pas si le chauffage marche.
Non, il fait chaud.
Il fait chaud.
Voilà. Bien, alors, je vous propose qu'on commence. Hein. On va donc commencer et on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alain, si tu peux.
De renouveler vos forces et ainsi de nous bien faire, ainsi de nous enseigner, nous prendre, de retenir ce que nous découvrons de ta part. Amen.
Voilà, donc nous voici rendus à notre cinquième étude sur le prophète Élie. Donc ce soir, c'est 1 roi 19. Donc si on peut ouvrir la parole de Dieu au premier livre des rois, au chapitre 19. Voilà, tout le monde y est. Alors, on va donc lire tout le chapitre. Hein. Peut-être en commençant par Josias. Tiens.
Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur.
Et il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il, maintenant, éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. »
Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb.
Là-bas, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Que viens-tu faire ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit. « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. »
Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, un grand vent impétueux déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, du feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce, subtile.
Et il arriva, quand Élie l'entendit, qu'il enveloppa son visage dans son manteau, et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui parla et dit, « Que fais-tu ici, Élie ?»
Il répondit, « Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus le supporter de voir comment les Israélites agissent. En effet, ils ont rompu ton alliance et ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. »
Oui, tu peux continuer. C'est Feliciano, c'est ça?
Non.
Manu. Manu, alors, Manu.
L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert,
jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazael pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir.
Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisée.
Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut auprès d'Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service.
Bien, merci beaucoup. Alors, donc nous voici devant un texte qui est assez curieux. Au regard de ce qu'on a vu dans les dernières études, ça tranche nettement. Et l'ambiance de ce soir pourrait être morose si vraiment nous ne retenons pas la leçon principale de cette étude. Mais Élie, en tout cas, a beaucoup de choses à nous apprendre sur nous-mêmes et sur notre manière de servir le Seigneur. Alors, Élie avait déployé son zèle à servir Dieu, à ramener le cœur du peuple qui s'était égaré. Hein, n'oublions pas que vraiment il y avait l'idolâtrie en Israël, que Jézabel avait introduit le culte des Baals, donc un culte idolâtre complètement, et tout le peuple s'était éloigné avec son roi en tête, hein, le roi Akab, s'était éloigné de l'Éternel. Et donc, Élie était le prophète du réveil, qui est venu avec la puissance vraiment d'en haut, et qui a ramené, avec des miracles, avec des signes, avec des prodiges, il a ramené le cœur du peuple à Dieu. En tout cas, il a tout fait pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et alors qu'il aurait pu se réjouir en se disant, ben voilà, j'ai tué les prophètes de Baal, le peuple a choisi le camp de l'Éternel, et donc les choses, ben, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais non, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce que en réalité, Akab avait certes assisté à tout ce que Élie avait fait, mais son cœur n'était pas à l'Éternel, et donc il y avait un danger qui guettait Élie. C'était le danger Akab plus Jézabel. Ça peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de mal. Et comme c'était les rois, hein, le roi et la reine, ils pouvaient faire des choses vraiment mauvaises contre la vie d'Élie. Donc Élie est là, découragé, d'avoir, un peu comme nous, hein, comme si vraiment on servait Dieu de tout notre cœur, et qu'on voit les résultats à la fin, quand on fait le bilan, on se rend compte que c'est pas ça. Le compte n'y est pas, on est complètement, on s'est complètement fourvoyé. On a déployé tant d'énergie pour un résultat quasiment nul. Voilà, donc voilà où nous en sommes. Alors, comme d'habitude, donc, je vais vous distribuer les feuilles où il y a les questions et les réponses, parce que on va donc procéder de cette manière comme d'habitude.
Les questions et les réponses.
Les questions. Les questions. Les réponses, c'est vous qui allez les donner. Hein. Voilà. Questions-réponses, ça serait bien. Hein. Questions-réponses, ça serait bien.
Je ne bouge pas ton bras. Non, ok. Non, mais
C'est pour que toi tu sors pas ton bras.
Alors, j'espère que tout le monde...
Non, ça va arriver. De l'autre côté, ça va tourner. Peut-être on va
arriver. Il va en montrer 4, je pense.
Je vais faire
des photocopies.
Oui, oui. Fais une dizaine de photocopies, oui. Merci, Josias. Voilà, donc tout le monde à la feuille de questions-réponses. Des questions, pardon. Décidément. Non, bah, je vous dis ça parce que moi j'ai la feuille des questions-réponses.
Oui, c'est surtout ça, oui. Parce que nous, on n'en a pas, non. C'est pas pareil, on n'a pas la même feuille, non.
C'est bien placé.
Ouais. Voilà. On n'a pas la même feuille, je me rends compte. Ouais.
Ah, j'ai du temps. Bon, d'accord.
Trois.
Ok.
C'est comment, Georges, c'est toi qui feras la prochaine. Oui, je pense que je suis allé trop loin.
C'est pas grave, je vais ce qui m'était.
Non, mais comme ça, ça te fera du travail en moins.
Ou en plus pour la prochaine.
Voilà. Alors donc, nous allons prendre les questions les unes après les autres et lire donc les versets les uns après les autres. Alors, j'ai divisé cette étude, donc en principe, c'est jusqu'au verset 7. Hein, donc, le restant, ça sera pour la prochaine fois, pour celui qui fera l'étude la prochaine fois. Voilà. J'ai divisé la question, l'étude, en une série d'études de personnages, dans l'ordre où les personnages se présentent devant nous. Le premier personnage qui se présente devant nous, nous le trouvons au verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire le verset 1?
Et Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et en détail comment il avait tué par l'épée tous les prophètes.
Voilà. Alors, quel est le premier personnage qui apparaît là?
Akab.
Qui est Akab? On se rappelle, hein?
Le roi.
C'est le roi. Et Akab veut dire frère du père. Bon, en fait, c'est un faux frère. C'est un faux frère ou c'est un frère d'un faux père. Parce que Akab est vraiment pour le peuple d'Israël une tâche dans son histoire. Akab a été un roi extrêmement méchant, extrêmement sanguinaire, mais ce qui va le caractériser, on va le voir au verset 1. Il y a quelque chose de particulier qui caractérise le roi Akab. Parce qu'il est dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Alors, première question qu'on pourrait se poser, mais qu'est-ce que c'est que ce roi? Qu'est-ce que c'est que ce roi? Alors, donc, on va lire les questions, donc on peut peut-être continuer. On s'était arrêté à Manu, je crois, dans la lecture.
Non, à René.
À René. Alors, Maïté, est-ce que tu peux lire la question numéro 1?
Que révèle ce verset sur le caractère de l'Achab, comparé avec 3, 18 et 10?
Voilà. Alors, est-ce que tu peux lire 1 roi 18, 10?
L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation. Ne dis rien parce que ça ne va pas. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume. Où sont mon maître n'est envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et les nations que l'on n'avait pas trouvé.
Voilà. Le roi en veut au prophète Élie. Voilà qu'il se trouve en présence d'Élie. et il n'agit pas selon ce que il fait, selon ce qu'il faisait paraître, c'est-à-dire selon sa méchanceté. Il est là devant le prophète Élie. Élie tue tous les prophètes de Baal en présence du roi Akab qui est là et qui assiste. Et une fois que les prophètes ont été tués, Élie est toujours en liberté, alors qu'il faisait jurer tout le monde qu'il n'avait pas vu Élie. Et là qu'il est en présence d'Élie, de lui-même, il ne fait rien. Il assiste au massacre et après, il s'en va. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rapporte tout ce que Élie avait fait, il le rapporte à son épouse. Alors, qu'est-ce que ça révèle dans le caractère d'Akab?
Ça révèle que c'est sa femme qui commande.
Oui, la lâcheté. Alors, ce qui caractérise donc le roi Akab, c'est avant tout sa lâcheté. C'est un roi lâche. Il est là comme un petit garçon qu'on a battu, qu'un copain a battu, et qui ne dit rien, qui ne fait rien, et qui va pleurnicher devant sa maman en disant « Oui, voilà, elle m'a battu. » En fait, espérant que c'est sa maman qui va être... qui va punir le copain. Voilà. Donc, Akab, c'est le roi absolument lâche. En fait, Jézabel...
Jean,
oui.
Excusez-moi, je peux juste demander une pause.
Ouais.
Est-ce qu'on peut prier pour Maïlis? Maïlis, c'est la jeune fille qui est juste à gauche. Juste sans donner de détails, parce qu'il y a une force ennemie qui empêche qu'elle rentre dans cette... qu'elle puisse écouter la parole de Dieu, qu'elle soit prêchée, qu'elle puisse l'entendre. Donc, sans donner de détails, juste que l'un d'entre vous, par la foi, puisse prier ou intercéder. Et puis, on verra si Maïlis revient. Mm-hmm. Si ça ne vous ennuie pas, là, elle est dans la voiture. Voilà.
Donc,
elle s'est sentie mal, elle avait impressionné...
Ah, il y a quelqu'un dans
l'ordre. Juste une prière, parce que c'est pour l'occasion de voir la gloire de Dieu agir. Et voilà, excusez-moi pour l'interruption.
Oui, oui, non, mais...
Parce que le propos, c'est là.
Ok, merci alors. Père Céleste, par le nom du Seigneur Jésus, on voudrait te remettre Maïlis, et que rien n'empêche, en vertu de la victoire de notre Seigneur, de notre Roi, qu'elle puisse entendre parler, prêcher ta parole, si c'est ta volonté, Père. Par le nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Ouais. Merci. Voilà, donc un roi lâche, un roi qui utilise le bras de sa femme pour frapper. Lui-même, il est incapable, devant l'adversité, de prendre une décision et de... Donc c'est la lâcheté qui caractérise vraiment Akab. Akab est dominé par sa femme Jézabel, et comme je disais tout à l'heure, sa femme est le bras fouettard de la méchanceté d'Akab. Ce n'est pas le père fouettard, mais c'est la mère fouettarde. Voilà. Alors, les leçons qu'on peut tirer de cette première constatation, pour nous-mêmes, ayons le courage de nos opinions. Hein. C'est tellement plus facile de faire aux autres le sale travail. On n'a pas soi-même le courage d'aller jusqu'au bout de nos idées. On demande aux autres d'agir à notre place. Et ça, c'est pas quelque chose de bien, surtout dans ce cas où vraiment c'était quasiment demander à Jézabel de tuer le prophète, quoi. En fait, c'est ça. C'est commettre un crime par une personne interposée. C'est ce qu'on pourrait appeler un péché par procuration. On pêche par procuration. On donne une procuration à quelqu'un d'aller frapper parce que soi-même, on n'a pas le courage de frapper. Voilà. Donc, attention, ayons le courage de nos opinions. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose par rapport à cette première constatation? Voilà. Voilà. Comment est Akab? Après, quand on lit notre premier verset, donc toujours, hein, Acab rapporta à Jézabel. Le deuxième personnage, c'est donc Jézabel. Alors Jézabel, je rappelle, littéralement, ça veut dire fumier. Et elle mérite bien son nom, c'est vraiment du fumier. Fumier, Jézabel. Hein? Alors, Jézabel. Jézabel est une femme démoniaque. C'est une démoniaque. Alors, à quoi on peut le voir? C'est qu'une des caractéristiques d'un esprit dominé par le mal, c'est de nier l'évidence de la vérité, d'aller jusqu'au bout de ses intentions mauvaises, alors que l'évidence permet de constater qu'on est complètement dans l'erreur. On est complètement dans l'erreur, mais on va jusqu'au bout de ses idées et de ses intentions meurtrières et mauvaises. C'est un esprit dominé par le mal. Et Jézabel était vraiment dominée par le mal. Elle voit bien que les prophètes sur lesquels elle a fondé toute son espérance, du Dieu sur lequel elle a fondé toute son espérance, ces prophètes ont été tués, n'ont pas réussi le test de l'épreuve qui leur a été proposé par Élie. Ils ont tous échoué, ils sont tous morts, ils ont tous été tués. Et malgré tout, au lieu de se repentir, au lieu de dire « c'est vrai, votre Dieu, le Dieu d'Israël, est le Dieu véritable », non. Elle persiste dans ses intentions sanguinaires. Elle est vraiment le type même de la personne démoniaque, la personne vraiment l'ennemi, l'opposé du Seigneur. Voilà Jézabel. Jézabel, c'est la femme sanguinaire, celle qui veut vraiment s'opposer au culte du vrai Dieu. Alors Jézabel est une femme démoniaque, mais vous savez, les démoniaques souvent ont une intelligence vraiment tellement aiguisée. Hein? C'est vraiment l'intelligence au service du mal. Voilà Jézabel. Et ça nous amène à la deuxième question, parce que quand on lit ce que va faire Jézabel, on est quand même assez surpris, au premier abord, de la méthode qu'elle va utiliser pour se débarrasser de son adversaire, donc pour se débarrasser d'Élie. Elle va utiliser quelque chose qui est vraiment curieux, et d'où notre deuxième question, et tu peux lire...
Troisième. Hein?
Deuxième question. Tu peux lire... Béatrice, oui. Voilà. Oui. Voilà, quelle est la véritable stratégie de Jézabel face à Élie? Parce que quand vous lisez le verset, est-ce qu'on peut relire le verset 2?
Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. »
Voilà. Voilà quelqu'un qui cherche à se débarrasser, à tuer son adversaire. Et il lui fait dire, bon, demain à telle heure, on viendra te chercher pour t'amener à l'abattoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'agir?
Pour lui faire peur.
Menace. Oui, oui. En fait, Jézabel n'avait pas tellement l'intention de tuer directement Élie. Elle va utiliser une technique beaucoup plus subtile. Alors, quelle est cette technique?
Lui faire peur.
Lui faire peur, mais dans quel but?
Provoquer sa fuite.
Voilà, provoquer sa fuite. Parce que imaginons que Élie fuit devant Jézabel. Qu'est-ce que ça va prouver à la face du peuple et à la face du roi Acab?
Ah, oui. Qu'elle est beaucoup plus forte.
Qu'elle est beaucoup plus forte que son ennemi. Moi, j'ai réussi à faire fuir celui qui a tué les prophètes. Donc, le plus fort, ce n'est pas lui, mais c'est moi. Voilà donc la technique de Jézabel. Faire peur dans le but de prouver que le plus fort, le plus faible, c'est celui qui a pris la fuite. Quoi. C'est ça. Voilà.
Oui, mais elle n'est pas la plus forte parce qu'elle aurait pu le faire exécuter immédiatement.
Oui, mais faire exécuter quelqu'un qui vient d'amener, qui vient de prouver devant la face de tout le monde qu'il est un prophète très très puissant,
ça aurait soulevé,
en fait, ça aurait fait de lui un martyr.
Voilà.
Et faire de quelqu'un un martyr, ça peut être très dangereux. Vous savez, les gens se soulèvent, sont prêts à donner leur vie pour quelqu'un qu'ils estiment qu'il a été tué injustement. Que quelqu'un est mort en tant que martyr. Les exemples ne manquent pas dans l'actualité. Hein. Beaucoup de gens, des terroristes, qui ont commis des actions vraiment exécrables, une fois qu'ils ont été tués, ben, ils ont été considérés comme des martyrs. Et finalement, le travail, enfin, ce qui en a résulté a été pire encore que la mort du terroriste. Donc, Jézabel ne voulait pas faire d'Élie un martyr. Ça aurait galvanisé le peuple contre elle et contre le roi. C'est une calculatrice, c'est une manipulatrice, c'est une femme démoniaque, n'oublions pas. Et donc, en fait, tout ce qu'elle fait est parfaitement calculé. Et elle ne fait pas quelque chose qui lui reviendrait à la figure comme un boomerang, quoi, en fait. Et donc, elle ne fait pas exécuter en douce le prophète Élie, mais elle va l'obliger à fuir. Et malheureusement, et c'est là que le premier point d'interrogation se pointe, c'est que malheureusement, Élie va prendre la fuite. Élie, lui le prophète, qui a affronté les prophètes de Baal, lui qui a fait descendre le feu du ciel, lui qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, Élie va prendre la fuite devant une femme. Déjà à l'époque, n'oublions pas le contexte de l'époque, prendre la fuite devant une femme, c'était la honte la plus terrible qui puisse exister. Élie va prendre la fuite devant Jézabel. Et justement, on arrive au troisième personnage, hein, donc si on continue à lire d'après notre texte. Hein, donc Élie est le troisième personnage qui va entrer en scène. Élie, je rappelle, veut dire « Mon Dieu est l'Éternel ». Et « Mon Dieu est l'Éternel » va fuir devant la prophétesse de Baal, la prophétesse d'un faux Dieu. J'ai du mal à reconnaître vraiment le Élie que j'ai rencontré au chapitre précédent. Un homme terrorisé, un homme qui prend la fuite devant Jézabel. C'est qu'il doit avoir des raisons profondes. Quelles sont les raisons profondes qui ont poussé le prophète, l'un des plus grands prophètes, en tout cas en termes de signes, de prodiges opérés, l'un des plus grands prophètes, qu'est-ce qui l'a amené à fuir devant une femme? On va voir les raisons. Donc, de la fuite de Élie. Donc, nous voici amenés au prophète Élie. Et la question 3, donc si tu peux lire la question 3 à Carole.
Okay. Dans les versets 3, 4 et 10, quelles sont les raisons qui ont conduit Élie au découragement? À comparer avec Pierre en Matthieu 14, 28 et Paul en 15.
Et 2 Corinthiens. Voilà. D'abord, est-ce que tu peux lire donc les versets 3, 4 et 10? D'abord, le verset 3.
Élie, voyant cela, se leva et s'amala, se sauve sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. »
Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a relevé les raisons? Les raisons, hein? Les raisons qui ont conduit Élie au découragement.
Il s'est séparé de son serviteur, il est tout seul.
Il est tout seul, c'est vrai. Voilà une raison. Est-ce que quelqu'un peut en donner une autre raison?
Pour sauver sa vie.
Pour sauver sa vie.
Cette oui. Fois, il sait ce qui s'est passé avant, donc il sait que cette fois-ci, ça va être l'étau va se resserrer.
Voilà, l'étau va se resserrer sur lui. Et évidemment, qui est-ce qui ne fuirait pas pour sauver sa vie?
Et je pense qu'il est aussi rentré en dépression parce que c'est pour lui un constat d'échec de voir que, en fait, au plus haut niveau de l'État, ce qu'il a fait, il a l'impression que ça a servi à rien.
Ça a servi à rien. Ça a servi à rien. Donc, alors, tout ce que vous avez dit est complètement juste. Maintenant, lisez Matthieu chapitre 14, versets 28 à 30. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 14, 28 à 30?
Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. »
Voilà. Alors, voici notre ami Pierre, hein, un peu comme Élie, qui va marcher sur l'eau, le regard fixé sur Jésus. Il marche sur l'eau. Mais la tempête est tellement forte, il est balayé par la tempête, et le voilà qui commence à s'enfoncer. Pourquoi ?
La peur.
Parce qu'il regarde.
Voilà, parce qu'il a détourné ses yeux du Seigneur, et il a regardé ce qui se passe autour de lui. Il a vu ces grandes vagues, il dit, oh là 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 là, personne n'a jamais marché sur l'eau, qu'est-ce qui m'arrive ? Je vais me noyer. Et effectivement, il a commencé à se noyer. Élie, il avait les yeux fixés sur l'Éternel, il faisait tout au nom de l'Éternel, et voici que maintenant il voit cette femme Jézabel qui terrorisait tout le peuple d'Israël. J'aurais pas aimé vraiment la voir en face de moi, mais voilà cette femme-là qui terrorisait tout le peuple, et elle a les yeux fixés sur la femme, et il perd courage. Il perd courage parce qu'au lieu de regarder à l'Éternel, il a regardé à Jézabel. Et nous aussi, c'est pareil. Chaque fois que dans ma vie, je cesse de regarder à l'Éternel, je regarde aux événements qui m'entourent, là, j'ai peur. J'ai peur parce que je n'ai pas la force d'affronter les événements qui m'entourent. Je ne peux pas, personne ne pouvait tenir devant Jézabel. Élie, en regardant Jézabel, a eu peur. Et il a fui pour sauver sa vie. Alors, est-ce que c'est grave de fuir devant la persécution pour sauver sa vie? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Est-ce que c'est permis ou pas permis?
Si, c'est permis.
C'est permis. Alors, c'est permis. Regardez par exemple Matthieu. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 10, 23? Matthieu chapitre 10, verset 23. Matthieu chapitre 10, verset 23.
Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu.
Voilà. Quand on vous persécute dans une ville, ce n'est pas qu'il faut prendre l'épée et qu'il faut affronter cette ville. Non, il faut fuir dans une autre ville. Donc, Élie, on ne peut pas lui jeter la pierre d'avoir fui la persécution. Mais il y a quelque chose de plus subtil, de plus profond que cette fuite. En réalité, le terme qui est traduit par... Il prit la fuite pour sauver sa vie. En fait, pour sauver sa vie, signifie littéralement « et il alla à son âme », littéralement. Et Élie alla à son âme. C'est-à-dire qu'il suivit les penchants de son âme. Il suivit ce que son âme lui dictait de faire. Ce que sa personnalité, ce que son fort intérieur lui dictait de faire. Et à chaque fois que je regarde à moi-même, à mon âme, que je suis les penchants de mon cœur, les sentiments qui m'environnent, je ne suis plus dans ce que le Seigneur dit, si on vous persécute dans un lieu, fuyez dans l'autre. Là, je suis face à face à moi-même. C'est-à-dire que je prends les décisions, non pas en fonction de ce que Dieu veut, mais en fonction de ce que mon âme ressent. Et ce que mon âme ressent, ça ne peut être que la peur. Notre âme a toujours peur. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Vraiment. Si on suit les penchants de son cœur, nous ne ferons autre chose que ce que Élie a fait, c'est-à-dire fuir devant Jézabel. Donc, en fait, pour sauver sa vie, ça veut dire parce qu'il a regardé à ses propres sentiments. Ses propres sentiments qui lui disaient « Fuis devant cette femme-là. » Voilà. Donc, la leçon, moi, que je retiens ici, c'est ne pas suivre les penchants, les sentiments qui vagabondent, qui tantôt positifs, tantôt négatifs, tantôt en haut, tantôt en bas, ben je serai comme une girouette. Quand le vent souffle dans la bonne direction, c'est positif, tout va bien. Quand le vent souffle dans la mauvaise direction, c'est négatif, tout va mal. Et donc, je fais des montagnes russes, des hauts, des bas, des hauts. Et ma vie chrétienne devient comme ça, avec des hauts et des bas. Et c'est ce que notre pauvre Élie, ici, est en train d'expérimenter. Il est en train d'expérimenter qu'il ne faut jamais regarder à soi-même. Ne jamais s'appuyer sur ce que nous ressentons sur soi-même. Tant que Élie s'appuyait uniquement sur l'Éternel, il était le prophète vraiment par excellence. Mais ici, il regarde à la femme, il regarde à Jézabel. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 10. Est-ce que tu peux lire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, Carole?
De Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu.
Voilà. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. Chaque fois que c'est moi qui est mis en avant, c'est la défaite. Quand c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est mise en avant, c'est la réussite, c'est le succès. Et donc, Élie a commis cette erreur d'avoir regardé à lui-même. Et regardez comment Élie s'est regardé lui-même. Au verset 4, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. Je !» Et au verset 10, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Car les enfants d'Israël, c'est-à-dire, il y a moi et les autres. Moi, j'ai fait tout pour l'Éternel. J'ai déployé mon zèle. J'ai vraiment été extrêmement spirituel. Mais tous les autres ont adoré les Baals, se sont inclinés devant les Baals. Qu'est-ce que ça montre dans l'esprit d'Élie? Qu'est-ce que ça prouve? Tout grand prophète qu'il est, et il est, c'est l'un des plus grands prophètes. Hein. N'oublions pas que sur la montagne de la Transfiguration, c'est Élie et Moïse qui apparaissent à Jésus. Hein. Donc c'est quand même, on est là devant quelqu'un de très très grand. On ne lui arrive même pas à la cheville. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui, mais regardez, moi, moi et les autres sont là. Ils se glorifient. L'orgueil précède la chute. quand je me vois grand et les autres petits, alors ça, je vais bientôt chuter de ma hauteur. Et plus je me serai élevé, et plus grande sera la chute.
Il y a aussi une injustice. Oui. C'est peut-être pas que de l'orgueil, mais c'est juste que... En fait, j'ai l'impression qu'il fait des reproches à Dieu, plutôt, en disant, voilà, tu m'as laissé dans cette situation, alors que j'ai fait tout ça.
Voilà, voilà.
Il voit une injustice, mais je trouve que ce qui est mauvais, c'est qu'il le reproche à Dieu.
Voilà. Il voit une injustice, entre guillemets, et il reproche à Dieu cette injustice-là. Moi, j'ai travaillé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et voilà le résultat qui ont. C'est pas possible. Un peu comme l'apôtre Paul qui dit j'ai fait plus que les autres. Mais il rajoute, ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu qui agit en moi. En fait, sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Vous enlevez la grâce de Dieu, enfin moi le premier personnellement, vous enlevez la grâce de Dieu, il n'y a plus personne. Mais ça, je vous le dis très franchement. Hein. Vous enlevez la grâce de Dieu, demain vous ne me voyez plus. Je n'existe plus. Je suis obligé de vivre de sa grâce. Mais le problème dans la vie et dans ma vie aussi, c'est de mélanger, c'est de faire un mélange. Et c'est ce qui se passe pour Élie. Élie est un véritable prophète de Dieu. Il aime l'Éternel de tout son cœur. Il veut le servir de tout son cœur. Son cœur brûle pour le Seigneur. Tout comme nous tous ici, nos cœurs brûlent pour le Seigneur. Mais seulement, ouais, il agit aussi dans sa propre force, avec ses propres capacités, avec ce cœur qui interroge et qui demande à Dieu « Pourquoi ?» Et chaque fois que je dis à Dieu « Pourquoi ?» Je dis un peu ce que Élie était en train de nous dire. En fait, on rejette le tort sur Dieu. Chaque fois que tu prononces devant Dieu le mot « Pourquoi, Seigneur ?», en fait, tu reproches au Seigneur. Donc, tu es meilleur. À ta place, je n'aurais pas fait ça. À ta place, j'aurais agi autrement. Pourquoi tu agis comme ça? Voilà. C'est grave, en fait. Hein? On ne fait pas attention à ces choses-là, mais c'est grave. Mais... nous ne sommes pas meilleurs qu'Élie, hein, et Élie n'est pas meilleur que nous. Nous sommes de la même nature que lui. Et Élie doit apprendre, justement, et comme nous tous dans nos vies, Élie doit apprendre, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et Élie va apprendre de la part du Seigneur cette leçon. Ne jamais se comparer aux autres, aux frères et sœurs. Ne jamais dire, moi, je... Oh, tu as vu lui. Oh, lui, il est plus fort qu'eux. Il a plus de foi qu'eux. Il est plus spirituel qu'eux. Se comparer aux autres, il n'y a rien qui puisse vraiment, mettre le Seigneur en colère. Ne jamais se comparer aux autres. Toi, tu as un chemin. Moi, j'ai un chemin. Lui, il a un chemin. Nos chemins, on ne doit pas les comparer les uns aux autres. Tu te compareras au Seigneur. Tu rendras compte de ce que le Seigneur t'a donné à faire devant lui. Mais tu ne vas pas dire « et l'autre ». Non, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Et là, Élie va se comparer à tous les autres. Ensuite, ne jamais regarder à ses propres capacités. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul hein, dans 1 Corinthiens. Et aussi dans 2 Corinthiens. Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens 12, 6 à 9 ?
Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. Afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour ce que je sois pas empli d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. »
Voilà. Le chemin à suivre, ne pas se glorifier, mais simplement de sa faiblesse. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de ses faiblesses et non de ses forces. Voilà. Alors, maintenant que notre frère Élie est dans cette attitude, eh ben, donc il a peur, comme l'apôtre Pierre, il va prendre les jambes à son cou, il va fuir devant Jézabel, et il va fuir où? En fait, lui-même, il ne sait pas trop. Il va rentrer dans une spirale dans laquelle vraiment il faut tenter de ne pas rentrer du tout. C'est la spirale qui conduit au découragement et même à la dépression. Et cette spirale, nous allons voir que Élie a mis le pied dans l'engrenage et il est petit à petit en train d'être aspiré en bas. Et jusqu'à un point où il va demander même la mort. S'il avait eu peut-être, bon, pour le peuple d'Israël, pour un Israélite, vraiment se donner soi-même la mort, c'était quelque chose d'horrible. C'était pas autorisé déjà, mais c'était quelque chose de plus horrible encore qui pouvait vous arriver. Donc Élie ne va pas se suicider, non, mais il va demander la mort. Alors donc, relevant les différentes étapes, hein, donc c'est la question numéro 4, tu peux lire Alain, question numéro 4.
Relever les étapes de la spirale descendante du découragement.
Oui,
si tu peux. Versets 3, 4, 5.
Voilà, tu peux lire les versets 3, 4 et 5.
Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. »
Voilà. Est-ce qu'on peut relever les différentes étapes de la spirale descendante? Quelle est la première étape de la spirale descendante? Verset 3.
Il s'en alla.
S'en va.
Oui. Voilà. Voyant cela, il prend la fuite. Donc, on fuit. Et vous remarquerez que quand quelque chose ne va pas, une des premières choses qu'on fait, c'est de fuir les gens. On a tendance à se recroqueviller sur soi-même.
Les gens vous dérangent.
On fuit la communauté, on fuit l'église, on fuit les frères et sœurs, on fuit le pasteur, on fuit... Enfin bref, on se recroqueville contre soi-même. Première étape. Ensuite, la deuxième étape.
Il s'isole.
Mmh. Il s'isole. Ensuite.
Il se couche.
Oui.
Il quitte son frère aussi.
Il quitte son frère. Même l'ami le plus intime est abandonné. Ça, c'est déjà qu'on a atteint un seuil vraiment critique là. On abandonne même ses amis les plus intimes. Et après, l'étape suivante.
Il s'isole dans le désert.
Il s'isole dans le désert. Donc on va dans les endroits où il n'y a personne. Et après,
il demande la mort.
On demande la mort. Et là, c'est fini.
Il s'assoit, enfin, il devient aussi d'abord inactif, hein, comment dire.
Apathique.
Apathique, et il demande la mort. Donc, on était en haut avec le Seigneur, on fuit les frères et sœurs, on fuit les amis les plus intimes, on se couche par terre, et on demande la mort. Et là, c'est la dépression. Et frères et sœurs, ça peut arriver à tout un chacun. Hein. C'est arrivé à Élie, mais ça peut arriver à tout le monde de connaître des moments très difficiles, des moments où on s'isole, des moments où même on en vient à demander au Seigneur de venir nous chercher. Et si on avait le courage de même de se supprimer la vie, de se suicider. Et c'est pour ça que l'Église doit être vigilante. En tant qu'Église, veiller les uns sur les autres. Et en tant qu'Église, on doit vraiment voir quand un frère, une sœur ne va pas. Quand il commence à descendre ces marches-là, et quand ça arrive à l'état critique, là, ça peut être extrêmement dangereux. Et Élie est arrivé à l'état critique. Si vraiment le Seigneur n'avait déployé toute sa grâce et toute sa miséricorde, Élie, aujourd'hui, on n'entendrait pas parler de lui. Donc, les spirales descendantes, veillons les uns sur les autres pour ne pas qu'un frère ou une sœur soit privé de la grâce de Dieu. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Que tout le monde soit au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais pourquoi Élie a fait cela? Parce que justement le sentiment d'être devenu inutile, comme disait Élie. Chaque fois que je me sens inutile dans l'Église, j'ai mis presque un doigt dans l'engrenage. Est-ce que nous nous sentons inutiles dans le service de Dieu, dans l'Église? Est-ce que nous avons notre place? Avons-nous trouvé notre place? Avons-nous trouvé notre ministère? Ce que le Seigneur nous a donné à faire pour son Église. Et chacun de nous, même la tâche la plus petite, chacun de nous a été appelé par le Seigneur pour la remplir. Et il n'y a que toi qui peux la remplir et personne d'autre ne peut la remplir à ta place. Personne d'autre. Et quelle que soit la tâche que Dieu t'a confiée, cette tâche est grandiose parce que c'est Dieu justement qui te l'a confiée. Donc, attention à la spirale descendante. Alors, on va faire, je pense, la cinquième question. Je dis à ça parce que c'était juste au verset 7, mais moi j'ai débordé dans mon énergie, j'ai tellement tout débordé.
Non, jusqu'au
9. Jusqu'au 9, bon, très bien. Alors, donc la question 5, justement, on va voir la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu qui s'exerce sur son enfant, même si son enfant a suivi un mauvais chemin, comme Élie ici. Qui ou comment et pourquoi? Derrière la fuite d'Élie, due à son erreur, due à la façon dont il a regardé son ministère, l'histoire vraiment d'Élie, en fait, est entièrement contrôlée et même dirigée par le Seigneur. Ne croyons pas que lorsque nous sommes dans la difficulté, dans l'égarement, que le Seigneur ne voit rien, qu'il ne contrôle plus rien et que nous sommes complètement laissés à nous-mêmes. Non. Élie est entièrement sous le contrôle du Seigneur. Question 5. Est-ce que quelqu'un peut lire la question 5?
Versets 5 à 8. Qui, où, comment et pourquoi? Donc, qui contrôle et conduit Élie lors de sa fuite? Donc, versets 5 et 7.
Voilà, si tu peux lire les versets 5 et 7.
Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi, mange. » Et donc, il se lève, il mange, il se recouche. C'est...
Oui, et verset 7.
Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi.
Alors, qui contrôle et conduit Élie lors de sa fuite?
L'ange de l'Éternel.
L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire
le Seigneur.
Le Seigneur Jésus lui-même, hein, n'oublions pas. Hein. Chaque fois que dans l'Ancien Testament vous voyez l'ange de l'Éternel, vous pouvez remplacer par le Seigneur Jésus avant son incarnation. C'est Jésus lui-même, l'Éternel des armées, qui conduit son serviteur. C'est incroyable. Alors que celui-ci est sur une mauvaise pente à cause de son erreur. Comment ça s'appelle ça?
La grâce.
La grâce, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui ne nous donne pas ce que nous méritons. Et la grâce, c'est l'inverse. La grâce, c'est Dieu qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Et donc ici, Élie est à la fois sous la miséricorde et sous la grâce de Dieu. Dieu aurait pu le laisser. Tu veux te fuir? Ben vas-y, fuis, vas-y. Et ça aurait été justice. Mais Dieu ne lui donne pas ce que Élie mérite. En plus, Élie demande la mort et Dieu ne lui donne pas la mort. Quelle miséricorde! La croix du Seigneur. Mais à l'inverse, Dieu lui donne un gâteau. Alors que Élie ne mérite pas ce gâteau. Élie mérite qu'il meure de faim dans le désert. Et Dieu va lui préparer un gâteau. Mais quel gâteau, frère et soeur? Mais franchement, si de tels gâteaux existaient, parce qu'un gâteau qui te donne l'énergie pour marcher 40 jours et 40 nuits, moi j'aurais bien voulu manger de ce gâteau. Hein. Oui, deux gâteaux en plus.
Mesdames, vos recettes.
Il y a dommage qu'on n'ait pas la recette de. Mais Jésus-Christ est notre gâteau, hein, en fait. Christ est notre pain aussi.
Aujourd'hui, on a l'esprit.
Voilà, et on est conduit par l'esprit. Voilà. Donc, en fait, Élie, c'est Dieu qui contrôle Élie. Donc, qui c'est Dieu? Ensuite, deuxièmement, est-ce que tu peux continuer à lire, s'il te plaît?
Après, pardon. Oui. Vers quelle destination est-il conduit? Versets 7 et 8.
Voilà.
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
Voilà. Alors, vers où il est conduit? La montagne de Dieu à Horeb. C'est là que Dieu va se révéler à Moïse. Ah, qui s'est déjà révélé à Moïse, mais qu'il va se révéler à Élie. Ensuite, verset le troisièmement.
Par quel moyen est-il conduit? Donc, 6 et 8. Il regarda... Et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et à 8, donc il mangea et but. Il se leva, mangea et but. Ouais, c'est ce que je viens de lire.
Voilà. Alors, donc, quels sont les moyens que Dieu utilise?
La nourriture.
La nourriture. Hein, la nourriture. Donc, la grâce pour nous. Hein, la grâce et la miséricorde. Mais, et quatrièmement.
Et on pense aussi à Christ, le pain de vie.
Christ, le pain de vie.
On instaure nourriture aussi.
Voilà.
Pourquoi est-il conduit? Y est-il conduit? Donc, Osée 2, verset 14.
Est-ce que quelqu'un peut lire ou... celui qui a trouvé? Osée 2, 14.
Je m'assieds chez moi. Osée 2, 14.
C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur.
Pourquoi Élie est-il conduit au désert? Parce que Dieu veut
parler
à son cœur. Dieu nous conduit au désert, non pas pour nous faire mourir de soif et de faim, Mais c'est pour parler à votre cœur. Si aujourd'hui vous êtes dans la traversée du désert, sachez que Dieu veut parler à votre cœur.
J'ai pas ça moi, Osée 2, 14. Mais...
Oui, parce qu'il y a un décalage, mais c'est pas grave.
Hein. Ah, il y a certaines...
Oui, il y a certaines versions, il y a un décalage de deux versets.
Ah,
okay. Un décalage de deux versets dans certaines
versions. C'est 16.
Versions. Ah oui, c'est 11 chez moi.
C'est
16. Oui.
Non, c'est 16.
Ah oui, 16.
Oui, 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 oui. Excusez-moi, j'aurais dû vous signaler qu'il y a un décalage de deux versets. Voilà. Donc, Élie est conduit au désert pour que Dieu puisse parler à son cœur. Et le désert, c'est vrai, c'est le lieu où il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il y a Dieu. Et c'est ça le plus important.
Il y a le silence aussi.
Il y a le silence aussi. Donc, Dieu va nous conduire au désert et il nous donne pour cela un gâteau qui nous permet de marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Alors le chiffre 40, c'est le chiffre vraiment qui nous parle de l'épreuve. C'est le chiffre, disons, la durée qui est nécessaire pour détruire et neutraliser les actions et les revendications de la chair. 40 jours de jeûne pour le Seigneur. 40 jours et 40 nuits pour le déluge, 40 ans dans le désert pour Israël, 40 jours et 40 nuits pour Jésus et aussi pour Moïse. Donc 40, c'est vraiment le nombre, le chiffre nécessaire pour annuler, pour détruire les actions de la chair. Et là, Élie va marcher pendant 40 jours et 40 nuits pour qu'il apprenne à ne plus dépendre de sa chair. Et là, au désert, il va rencontrer le Seigneur. Et ça sera l'objet de notre prochaine étude. Élie à la rencontre de Dieu dans le désert. Est-ce que quelqu'un... Comment ? La question 6.
7, 8, jusqu'à 10.
Non. Vous voulez la faire, la question 6 ? Ou vous voulez qu'on arrête là ?
C'est un autre sujet.
Oui, oui, c'est un autre sujet. Donc, franchement, je pense que. Enfin, j'espère en tout cas que le Seigneur nous a nourris d'un gâteau ce soir.
Merci.
Et qu'on va marcher non pas 40 jours et 40 nuits, mais 40 ans et 40 décennies. Oui.
Tout à l'heure, tu as parlé l'ange de l'Éternel. J'ai vu des yeux découvrir ça. Juste pour compléter, donner deux, trois versets qui vont vous aider, parce que c'est vrai, dans l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ est apparu avant l'incarnation.
Oui.
C'est assez extraordinaire. Et il est appelé Yahvé dans Genèse 16, verset 7. C'est l'ange de Dieu. Dans Genèse 21, 17, c'est l'ange qui est devant sa face, qui est appelé Elohim. Et quand il apparaît à Jacob, dans Genèse 31, il va. Alors il est dit, l'ange de l'Éternel arriva, et quand l'ange parle, il dit, je suis le Dieu. Je suis le Dieu de Bethel. Donc il se présente comme Dieu. Donc c'est important de voir, en attendant de venir accomplir l'œuvre de la croix, et d'être que le Seigneur intervenait aussi.
Oui, oui.
Tu es allé très vite.
Oui, mais bon, je crois qu'il y a eu des messages là-dessus. Hein. Il y a eu des messages et des études bibliques. Mais peut-être qu'un jour, on refera des études bibliques. Mais sachez qu'effectivement, l'ange de l'Éternel, ne soyez pas surpris, l'ange de l'Éternel, c'est vraiment le Seigneur Jésus avant son incarnation. C'est l'Éternel des armées.
Peut-être juste rajouter sur les gâteaux, là, pour que Élie puisse prendre.
Ah, les gâteaux, oui. On reconnaît Georges.
Mais pour qu'il puisse reprendre ses forces.
Oui.
Je pense que... la parole de Dieu est une nourriture aussi, et on a besoin aussi de nous nourrir de cette nourriture pour pouvoir avoir une force.
Absolument. Absolument.
Je suis le pain de vie.
Voilà. Est-ce que... Ben, Georges, justement, tu peux prier pour remercier le Seigneur.
Seigneur, combien encore ce soir nous avons pu, à travers l'histoire d'Élie, nous avons pu, Seigneur, voir ta grâce. Ta grâce infinie, Seigneur, malgré les manquements, malgré le doute, malgré les peurs. Amen. Eh bien, Seigneur, tu es au milieu de nous, tu ne nous abandonnes pas. Amen. Et aujourd'hui, Seigneur, c'est vrai que peut-être l'un d'entre nous traverse des moments difficiles, mais nous savons, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es là et que nous pouvons compter sur toi. Et que nous avons besoin, justement, de nous nourrir de toi, Seigneur, afin d'être renouvelés dans nos forces, jour après jour, pour pouvoir marcher jusqu'à ton retour, Seigneur. Conduis chacun de nous. Nous voulons te remettre aussi, tout particulièrement, notre sœur qui est dehors. Mmh. Seigneur, tu l'aimes.
Oui,
tu ne veux pas qu'elle se perde. Nous voulons te la remettre, Seigneur. Et par la foi, nous crions à toi, Seigneur, que tu peux faire bien au-delà de ce que nous te demandons. Seigneur, que ton esprit touche son cœur, que à travers ta parole, qui est comme un marteau, qui puisse briser, Seigneur, ses doutes, ses peurs, ses craintes, Seigneur. Sois avec elle. Nous te la remettons ensemble, Seigneur. Nous crions avec la foi pour que vraiment tu interviennes dans cette personne.
Oui,
sois loué, sois béni. Accompagne-nous, Seigneur. Et merci encore de ta parole.
Amen.
Merci de cette nourriture. À toi seul, Seigneur. La louange et la joie.
Amen. Amen.